Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode du balado « Femmes de terre, femmes de tête ». Je suis Catherine Rousseau.
Et je suis Sandrine Demers.
Et nous serons vos animatrices pour ce balado.
« Femmes de terre, femmes de tête » est présenté par les Agricultrices du Québec, le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Pour ce premier épisode, nous avons décidé d'aborder l'un des chevaux de bataille des agricultrices du Québec, soit le travail invisible et ses enjeux.
Pour nous accompagner dans ce sujet, nous avons fait appel à deux expertes. La première que nous recevons est Marianne Pertuiset-Ferland, directrice générale de l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, avec qui nous aborderons le sujet d'un angle plus général. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci pour l'invitation.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle au sein de l'AFEAS et l'implication de celle-ci face à la problématique du travail invisible?
Oui, donc moi je suis directrice générale depuis quelques mois. Avant j'étais responsable de la mobilisation, donc c'est sûr que direction générale ça touche un peu à tout. Et puis pour ce qui est du travail invisible, ben c'est vraiment un cheval de bataille de l'AFEAS, sinon le cheval de bataille de l'AFEAS. Donc c'est un dossier qu'on défend depuis la fondation de l'AFEAS dans les années 60. Et puis, dans les dernières années, dans mon rôle de responsable de la mobilisation, j'ai pu mettre sur pied un comité interassociation pour la valorisation du travail invisible, dont faisaient partie les agricultrices du Québec. Je dis « faisaient partie », c'est pas parce qu'elles ont quitté, c'est vraiment juste parce que le comité a été mis un peu sur la glace là, dû à la fin d'un financement, mais on espère pouvoir le reprendre prochainement. Ce comité-là, qu'on appelle le CIAFTI pour les intimes, regroupait une douzaine d'organisations qui, dans le fond, avec des expertises un peu différentes, mais qui avaient toutes des valeurs féministes et qui se préoccupaient de, des enjeux liés au travail invisible et qui travaillaient pour une meilleure valorisation du travail invisible. Puis c'est ça, donc là, comme je le disais, on a dû mettre un peu sur pause le travail avec ce comité, mais c'est sûr que nous, on continue le travail pour la valorisation du travail invisible et je sais qu'il y a beaucoup d'autres organisations comme la vôtre là, qui œuvrent pour faire avancer ce dossier, donc je pense qu'on est sur la bonne voie.
Fait que c'est un bon CV, ça. Puis, premièrement, la question que je pense que tout le monde doit se poser, c'est quoi le travail invisible? Comment qu'on peut le définir?
C'est une très bonne question. Je vous avoue que même quand on a créé le comité, ça a été comme un peu la première question de s'entendre sur une définition commune du travail invisible parce que c'est assez large, ça se retrouve un peu partout, c'est difficile à définir, justement. Donc, nous, on est arrivés avec une définition commune qui n'est pas nécessairement exhaustive, mais dans le fond, on parle du travail invisible quand on parle de tout le travail qui est effectué sans rémunération ou de façon sous-rémunérée, comme par exemple le travail qui est effectué au sein de la famille, donc tout ce qui est le soin aux enfants, les tâches ménagères, puis ça comprend aussi la charge mentale puis la charge émotionnelle.
C'est ça que j'allais demander. Est-ce qu'on parle ici de la charge mentale?
La charge mentale fait partie, oui, du travail invisible. Puis aussi, il y a tout ce qui est le travail de proche aidance, donc auprès des personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'accompagnement. Aussi, tout le travail qui est effectué au sein de l'entreprise familiale. Donc ça, je pense que ça touche particulièrement les agricultrices. Et le bénévolat et le travail effectué dans le cadre d'un stage non rémunéré aussi sont considérés comme du travail invisible. Donc, je dirais que, en gros, le truc pour savoir si c'est du travail invisible, c'est du travail qui est comme un peu pris pour acquis, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, puis que c'est généralement plus les femmes qui l'effectuent.
Puis tu viens de le dire, qui est un peu pris pour acquis, mais en quoi est-ce que c'est problématique autre que ça, le travail invisible?
En fait, les tâches du travail invisible, c'est pas problématique de prendre soin des enfants, de s'occuper de la maison, d'aider son conjoint dans l'entreprise familiale. Ce qui est problématique, c'est le fait que c'est du travail qui est pas reconnu, donc qui est pas rémunéré à sa juste valeur ou pas rémunéré du tout. Ça fait que les femmes, en le faisant, s'appauvrissent parce qu'elles sont pas en train de travailler, elles sont pas en train de cotiser à leur régime de retraite. Donc, elles sont pas... Puis souvent aussi, quand elles font du travail qui n'est pas reconnu. Ça fait en sorte aussi que si elles ont un accident ou si elles se séparent de leur conjoint...
Elles ne sont pas assurées, là.
C'est ça, exact. Fait qu'elles peuvent vraiment se retrouver dans des situations de précarité là, importantes. Puis même chose, c'est par exemple, si quelqu'un, une personne proche aidante est en train d'aider son proche à se laver ou à se lever, puis elle se blesse, elle va pas être couverte non plus.
Non, par... elle n'a pas de syndicat, puis elle n'a pas de CNESST. Là.
Exactement. Fait que c'est vraiment au niveau d'être protégée puis de pas être pénalisée par ce travail-là qu'on effectue.
OK. Ah, parfait. Est-ce qu'on peut parler aussi du fait que ça ne soit pas rémunéré ou si la valorisation de ce travail-là, des fois, est pas... Parce que par la rémunération, on trouve une certaine valorisation du travail aussi. Fait que quand on est rémunéré, puis là, le fait de pas être rémunéré, c'est comme si on n'est pas autant valorisé aussi, là.
Oui, tout à fait. Puis c'est ça. C'est beaucoup du travail. J'essaie de penser au mot en français, mais c'est comme « thankless ». Comme il n'y a pas de... Tu sais, c'est comme « ben oui, c'est normal que tu t'occupes de ton enfant, puis oui, c'est normal que tu nettoies, puis que tu... »
Mais c'est pris pour acquis.
C'est ça.
Pris pour acquis,
ouais. C'est comme les femmes qui restent à la maison au lieu d'aller travailler pour s'occuper de leurs enfants. C'est comme si « ah, ben toi, de toute façon, tu ne travailles pas. Mm-hmm. » Mais finalement, elles n'ont pas grand temps pour elles-mêmes pour se reposer, tout ça. Donc,
c'est un peu l'équivalent de dire que le congé de maternité,
c'est un congé.
C'est un congé.
C'est les vacances.
Les vacances.
Exactement. Fait que c'est ça, c'est de reconnaître que c'est vraiment du travail puis que ça devrait être pris en considération puis ça devrait être valorisé. Ouais.
Est-ce qu'on sait combien d'heures de travail invisible peut faire en moyenne une femme ou un homme en général?
En fait, ça, c'est une des revendications là, du CIAFTI et de la FEAS, c'est justement d'avoir des meilleures données là-dessus mm-hmm. parce que comme on le dit, c'est du travail invisible, donc c'est du travail qui n'est pas vraiment comptabilisé adéquatement. Mais si on... Dans le fond, il y a des études, des données qui datent de 2015 de Statistique Canada qui démontrent que les femmes font en moyenne 3 heures et demie, j'arrondis là, mais à peu près 3 heures et demie de travail invisible par jour et les hommes en font à peu près 2 heures et demie. Donc, c'est une bonne heure de différence mm-hmm. à tous les jours. Ce qui équivaut à 7 heures à peu près, un peu plus que 7 heures par semaine. Donc, c'est une journée entière de travail de plus.
Puis à la fin de l'année, ça fait pas mal de journées
exactement.
En backup.
Exactement. Exactement. Fait que si on regardait, si on assignait un salaire moyen à ce nombre d'heures-là, on voit à quel point là, ça peut valoir beaucoup d'argent. Aussi, c'est ça, c'est que si on pense à... Si tout ce travail-là n'était pas pris en charge gratuitement par les femmes, il faudrait payer quelqu'un pour le faire. Puis donc, c'est sûr, au sein de la famille, bon, penser à engager une nounou, peu importe, mais aussi tout ce qui est le travail de proche aidance, tout ça, au final, c'est le gouvernement qui économise l'argent là, à ne pas avoir à payer des gens pour faire ce travail-là. Puis même chose pour, dans l'entreprise agricole, l'entreprise familiale, au final, quand il y a une personne qui aide gratuitement l'entreprise, qui ne reçoit pas de salaire, ben c'est des économies qui, au final, ne bénéficient pas à ces femmes-là, en fait.
Non, c'est ça.
Tu viens de dire que les femmes, selon les données, font plus d'heures que les hommes. Est-ce que les hommes sont conscients, est-ce qu'ils sont sensibilisés à cet enjeu-là? Est-ce qu'ils le voient, que leur femme, leur fille, leur peu importe, travaillent plus d'heures qu'eux par semaine?
Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus... on en parle de plus en plus. C'est sûr que ça dépend quels hommes. Ça dépend, tu sais, je pense qu'il y a des différences aussi générationnelles. J'imagine qu'il y a une différence aussi dépendamment de où on se trouve. Mais c'est ça, je pense que de plus en plus, c'est quelque chose les gens sont de plus en plus sensibilisés. Mais des fois, je pense qu'ils ne se rendent pas nécessairement compte jusqu'où ça va ou à quel point les femmes en font.
Puis ça aussi... revient à dire que c'est pris pour acquis.
Exactement. Mais tu sais, c'est même pas genre, t'sais, oui, tu le fais, mais je m'en fous. Tu sais, je pense que c'est vraiment, ça devient tellement automatique. Tu sais, par exemple,
ça va de soi.
C'est ça. Je me fais des toasts en attendant que mes toasts ils cuisent. Ben là, je vais vider la vaisselle, puis là, en même temps, ben je vais aller. Mais c'est ça.
C'est tellement moi.
Mais oui, fait que ça se fait. tu sais, c'est pas nécessairement « bon, OK, maintenant, je vais faire du ménage. Attention, tout le monde, je fais du ménage. » Donc, c'est pas nécessaire. Tu sais, c'est facile de pas le voir ou de pas se rendre compte de l'ampleur. Et surtout, je pense que c'est beaucoup la charge mentale qui est difficile, puis pas juste pour les hommes, là, mais qui est difficile pour tout le monde d'en réaliser ou de prendre connaissance de l'ampleur de cette charge-là. Puis un bon exemple, je pense, c'est, tu sais, les conjoints qui veulent aider puis qui disent « bon, qu'est-ce que je peux faire? » Tu sais, ou bien « tu sais, je vais aller à l'épicerie pour t'aider. Qu'est-ce que tu veux que j'achète? »
Mais là, ils t'appellent à l'épicerie parce qu'ils ne trouvent pas la farine.
Fait qu'au final, tu fais l'épicerie avec eux puis c'est pas nécessairement une charge qui t'est enlevée dans le fond.
C'est ça. Mais donc... Puis l'idée, c'est pas du tout de bâcher les hommes, là, ou de dire, tu sais, il y en a plein qui font, c'est ça. Mais tu sais, il y en a plein qui font, qui en font beaucoup de travail invisible. Mais je pense que c'est juste, c'est ça, c'est d'encourager tout le monde à en prendre conscience, à en discuter, puis à avoir des discussions avec leur partenaire de comme, hey, toi, comment tu vis ça? T'sais, est-ce que tu trouves que dans notre relation, dans notre famille, est-ce que tu trouves que l'arrangement qu'on a ou la façon qu'on fonctionne, est-ce que ça te convient? T'sais, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mieux faites? Puis, tu sais, c'est normal aussi qu'il y ait des... C'est... Ben, vous avez dit que j'étais une experte de travail invisible. Je suis pas tellement une experte de travail invisible. J'ai beaucoup... Tu sais, on a travaillé là-dessus, mais c'est aussi, tu sais, mon opinion que je vous partage, là. Donc, j'ai pas fait des années de recherche sur le sujet. Mais, tu sais, selon moi, je pense que c'est normal que dans un couple ou dans n'importe quel partenariat, tu sais, il y a une personne qui a plus de facilité ou qui apprécie plus faire une tâche qu'une autre. Fait que l'idée, c'est pas de tout faire 50-50 puis de s'assurer que ça soit tout parfaitement partagé de façon égalitaire, mais c'est que c'est ça, il y a pas une personne qui porte une vraiment plus grosse partie de la charge puis après qu'il soit pas en mesure de s'épanouir dans ses autres dans les autres facettes de sa vie de façon professionnelle, de façon personnelle ou tu sais de s'engager socialement comme elle le voudrait ou tout ça. Donc c'est vraiment juste de s'assurer que les deux personnes puissent avoir se sentir épaulées puis voilà.
Super. Puis là on parle un peu quand même de sexualisation des tâches en fait de dire que une tâche plus travail invisible, plus ça s'affaire aux femmes, tu sais, le ménage, qu'est-ce qui est plus travail au champ, au niveau du milieu agricole, on parle plus d'un, t'sais, comme d'une tâche d'homme. Mais comment la sexualisation des tâches continue à exister encore en 2023, qu'on parle encore de travail invisible, que tu sais, il n'y a pas de tâches pas importantes, elles sont toutes importantes, comment ça, encore en 2023, on doit encore en parler?
Par rapport à la séparation des tâches dans le milieu agricole, ça, je ne pourrais pas tellement me prononcer, mais si on pense au classique, là, s'occuper des enfants, tout ça, je pense que c'est vraiment une question d'évolution des mentalités. Puis on sait que ça prend du temps, mais je pense que notre société est encore quand même construite avec, comment dire, le congé parental, là, ça fait pas longtemps que maintenant les hommes peuvent vraiment partager le congé parental avec leur conjointe. Donc, les choses évoluent tranquillement, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis, il y a encore des... je pense que il y a beaucoup de pression sur les femmes d'être la mère parfaite, puis tu sais, elle a beau tout faire, mais là, si les fruits qu'elle donne à son enfant sont pas biologiques, ben là, c'est une mauvaise mère. Tandis que si le père y amène son enfant au parc, oh mon Dieu, que c'est-tu un bon père? Puis oui, peut-être que c'est un très bon père, puis tant mieux pour lui, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'inégalités en termes de pression qu'on met sur les femmes pour comme tout faire, puis pas se plaindre, puis être épanouie en même temps. Puis c'est ça, c'est que maintenant, les femmes sont majoritairement sur le marché du travail, alors qu'avant, leur job, si on veut, c'était vraiment de s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Mais maintenant, c'est comme si on s'attend à ce que les femmes s'occupent des enfants comme si elles travaillaient pas, puis qu'elles travaillent comme si elles avaient pas d'enfants. Fait que c'est ça vient pas de moi là, c'est j'ai lu ça quelque part, mais fait qu'on c'est ça, je pense que c'est beaucoup de pression sur les femmes de tout faire, puis c'est pour ça que c'est, je pense que c'est important de mettre en place de plus en plus de mesures de conciliation famille travail études, mais pas juste pour les femmes, parce que en faisant ça juste pour les femmes, on renforce l'idée que c'est aux femmes de s'occuper de ça. Donc, ça devrait être fait pour tout le monde, puis d'encourager les hommes, justement, à prendre les congés parentaux, puis à, tu sais, dans le fond, à profiter des mesures de conciliation pour, c'est ça, faire leur juste part dans la famille, puis ou auprès de leurs proches. Mais c'est ça, souvent, c'est comme, ben là, si le gars, il prend trop de congés parentaux ou il part trop tôt de la job pour aller ramasser son enfant, ben là, il mérite-tu vraiment la promotion, tout ça? Puis, donc, c'est ça. Je pense que tout le monde, tous les acteurs de la société ont un peu leur rôle à jouer pour aider à cette évolution-là. Puis notamment, les employeurs là, ont vraiment un rôle à jouer.
Oui, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas déplacer le problème ailleurs, en donnant justement la place aux femmes et tout. On ne veut pas que ça pénalise les hommes. Tu sais, là, ça va être juste de déplacer le problème ailleurs. Donc, c'est intéressant. Tu mentionnes aussi, tu sais, beaucoup les nouvelles mamans ou les mamans avec des jeunes enfants et tout. Est-ce qu'on peut dire si le travail invisible touche une tranche d'âge en plus en particulier? Parce que, tu sais, justement, là, on a mentionné beaucoup les jeunes parents, les jeunes mamans, mais on a parlé des proches aidants aussi. J'imagine que ça touche pas mal tout le monde, au final.
Oui, je dirais que ça touche tout le monde. Encore une fois, c'est difficile. Tu sais, on n'a pas tant de chiffres que ça là, pour pouvoir tirer des conclusions vraiment comme claires, mais tu sais, on sait que c'est pas limité à une ou deux tranches d'âge. C'est ça, nous, à la FEAS, on a beaucoup de membres qui sont âgés de 60 ans et plus, et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail invisible qui se fait dans cette tranche d'âge-là aussi. Il y a beaucoup des femmes qui s'occupent de leurs conjoints qui sont en perte d'autonomie ou de leurs parents aussi, ou qui jouent aussi le rôle de grand-maman, tu sais, qui s'occupent avec, par exemple, le manque de place en garderie. Souvent, ben, c'est les grands-parents qui vont jouer le rôle de garderie un peu pour que les parents, la maman puissent aller travailler. Donc, il y a beaucoup de travail invisible qui se fait aussi là, à ces différents âges-là.
Est-ce qu'on peut dire que les femmes aussi participent à cette dévalorisation du travail? Prends juste par exemple, je dis souvent à ma mère, je la valorise en disant « Hey, merci beaucoup de m'avoir amené des repas, tout ça. » Puis là, elle va faire « Ah, oh, ben non, c'est ben normal, là, voyons, t'es ma fille, puis il y a rien là. » Puis souvent, on va nous-mêmes aussi faire comme « Ah, il y a rien là, tu sais, comme... » Est-ce qu'on peut dire qu'on participe un peu à cette dévalorisation du travail, de faire comme ça allait de soi, puis fait que les femmes, on est aussi un peu... On peut être aussi un peu une petite roche dans le pied, là.
C'est une bonne question, puis je pense qu'il faut faire attention de pas, comme, blâmer les femmes, selon moi, de, tu sais, faire ce qu'on leur a appris de faire. Mais c'est vrai qu'on contribue à perpétuer ces dynamiques-là, parce qu'on a été élevés à agir d'une certaine façon, puis c'est vrai que, tu sais, ça nous fait plaisir aussi d'amener à manger à quelqu'un qu'on aime, puis c'est pas... Ça, en soi, c'est pas un problème de dire « Hey, c'est comme j'aime ça prendre soin de toi, ça me fait plaisir de te voir. » Fait que ça, en soi, je dirais pas que c'est un problème, mais c'est complexe. Hein?
Oui.
Parce que c'est ça, c'est des dynamiques sociales. Fait que c'est ça. Le problème, c'est pas de faire du travail invisible, puis de tu sais, ça nous fait plaisir, puis de... Mais... C'est une bonne question que tu me poses. Je pense que c'est ça. L'important, c'est d'abord d'en prendre conscience.
Oui.
Oui, ça me fait plaisir. Puis oui, j'aime ça nourrir mon enfant. Puis oui, j'aime ça, tu sais, apporter son lunch à mon chum. Puis... Mais effectivement, en ce moment, je suis en train de faire du travail invisible. Puis ça veut pas dire, ben là, je vais arrêter tout travail invisible. Puis qui s'arrange. Mais...
Qui fasse leur lunch.
C'est ça. mais c'est ça, mais peut-être de dire « Hey, quand... » Tu sais, c'est rendu 9h30 le soir, puis je me suis pas encore, tu sais... J'ai pas pris un moment pour juste, comme, me reposer, puis, tu sais, avoir du temps pour moi. Ben, peut-être que c'est de se demander, bon, y a-tu quelque chose là-dedans que je pourrais déléguer? Puis encore une fois, quand on parle de déléguer, c'est la charge mentale, c'était les femmes, souvent, c'est les gestionnaires de projets de la famille, là. Mais, ou tu sais, que je pourrais me dire, bon, ça, il y a personne qui va mourir si je le fais pas. Mon enfant a 27 ans. est capable de se faire ses lunchs, ou tu sais, des... Fait que c'est ça. Puis, mais je pense pas qu'en plus, on devrait dire aux femmes de se taper sa tête parce qu'elles font du travail invisible, puis elles devraient pas, puis elles contribuent au patriarcat, là. Je pense pas que c'est ça l'idée. Mais
ça serait plus de reconnaître, juste faire « Ah, oh, ben c'est vrai que j'en fais. Je peux... J'aime le fait que comme faire ça, faire plaisir, mais je reconnais que j'en fais. » Fait que juste prendre connaissance, puis des fois, de pas banaliser les actions qu'ils portent aussi.
Mais j'ai aimé aussi que tu dises, tu sais, de prendre le temps de s'arrêter puis de dire, OK, si je ne vais pas passer le balai là, dans la cuisine à 9h30 mon lundi soir, personne ne va mourir.
Ouais.
Parce que moi, je suis ce genre-là de regarder mon plancher puis de faire, il faudrait que j'aille le balayer, tu sais. Mais au final, je ne me suis pas arrêtée de la journée. Il est rendu 9h30 puis si je ne prends pas une demi-heure pour m'asseoir, ben, je vais aller me coucher en faisant encore des tâches dans la maison.
Ouais.
Mais c'est de me dire aussi, moi, personnellement, de me dire, ben il n'y a rien qui va arriver si mon plancher n'est pas balayé à 9h30 le lundi soir. C'est comme un double travail, dans le fond.
Ouais.
D'accepter que tout n'est pas fait aussi, mais de prendre conscience aussi de tout le travail qu'on fait.
Oui, puis c'est de aussi d'en parler autour de nous, parce que c'est pas, tu sais, oui, en prendre conscience soi-même, je pense que c'est une première étape très importante, mais... C'est ça, c'est d'en parler avec ses proches, d'en parler avec les gens qui nous entourent, puis s'il y a-tu moyen de pas... C'est ça, parce que c'est... Tu sais, passer le balai à 9h le soir un lundi, c'est pas juste... Tu sais, c'est pas juste ton plancher, là. Ben peut-être, là, mais tu sais, c'est
confirme
pas...
Confirme que non.
C'est ça. Fait que c'est pas juste toi qui as mis des miettes sur ton plancher. Fait que c'est d'inclure les autres aussi là-dedans, puis... Puis encore une fois, ça fait partie de la charge mentale d'éduquer les autres, puis de les sensibiliser, puis de leur faire comprendre, hey, tu sais, ça serait le fun qu'on puisse se faire un plan pour que ça soit pas tout le temps la même personne qui fait ce travail-là. Puis,
tu sais, des fois, comme je pense que plusieurs femmes aussi, puis même moi, je m'inclus, de dire comme, ah, à place de l'expliquer, je vais faire comme, ah, oh, t'inquiète, je vais le faire, ça va me prendre deux minutes, là, laisse faire. Ça sera pas fait à mon goût.
On est bonne pour. Pas le dire, mais après ça, de ruminer à l'intérieur, Colin, c'est toujours moi qui fais
tout. Il aurait pu le faire quand même.
Mais on n'a pas pris la peine de dire, hey, j'aimerais ça, que, comme si tu pouvais m'aider avec cette tâche-là.
Ouais. Puis c'est ça, puis aussi, c'est sûr que. Puis là, on tombe dans les un peu les détails, mais tu sais, je pense aussi en colocation, en n'importe quoi, tu sais, on n'a pas nécessairement les mêmes. Standards de propreté ou les mêmes standards de, tu sais, OK, il faut qu'on mange super équilibré à tous les jours de la semaine ou, tu sais, fait que c'est correct aussi de pas, tu sais, de c'est ça, faut faire des compromis, mais faut ouvrir la discussion pour en discuter. Puis aussi, j'en profite pour faire une petite promo. On vient de sortir une vidéo de sensibilisation sur le travail invisible qui, je pense, explique assez bien de quoi il s'agit, puis pourquoi c'est un enjeu. Puis je pense que ça pourrait être une bonne comme porte de
vraiment
de...
chouette en plus.
Merci.
Vraiment, vraiment belle.
Fait que c'est comme une belle ouverture, je pense, pour initier la discussion là-dessus. Fait que ça pourrait être comme...
C'est bien vulgarisé aussi. Je trouve que c'est facile, justement. Ben je pense que c'est ce que les gens ont besoin, que ça soit bien vulgarisé pour bien comprendre ces enjeux-là, parce que des fois, c'est expliqué un peu manière dans des études, des trucs comme ça, mais de le voir un peu plus dans nos mots, là, c'est le fun. Puis, justement, là, on parle beaucoup de la charge mentale, on parle beaucoup du stress, puis tout ça. C'est quoi, majoritairement, les enjeux autres, comme que justement la dévalorisation, tout ça? C'est quoi les enjeux qui sont causés par le travail invisible?
Il y en a beaucoup.
On est prête. On a du temps en masse.
Dis-nous ça.
Mais en fait, c'est ça. C'est beaucoup... c'est dans le fond, c'est que ça prend du temps dans leur journée, dans leur vie, qu'elles ne mettent pas ailleurs. Donc, si on pense juste au niveau du temps qu'elles ne mettent pas sur le travail, en fait, ça fait que souvent, elles doivent réduire leurs heures de travail rémunérées. Elles doivent s'absenter du travail. Des fois, elles doivent prendre des pauses professionnelles, soit congé de maternité ou pour s'occuper d'un proche qui est mourant ou d'une proche ou qui est malade. Ou parfois, si c'est pas de réduire les heures ou de s'absenter du travail, ben ça va juste être un surmenage, puis les personnes vont être vraiment épuisées. Donc, ça nuit évidemment à la santé physique, santé mentale. Aussi, c'est sûr que en étant moins T'sais, en travaillant moins d'heures ou en étant se sentant surmené, ben on va parfois avoir moins d'opportunités d'avancement professionnel. Il y a aussi des salaires qui vont être moins élevés, justement, parce qu'on n'avance pas professionnellement mm-hmm. au même rythme que des hommes, par exemple, qui ont pas ces contraintes-là ou ces charges-là de travail. Évidemment aussi, toutes ces coupures-là en temps puis en argent qu'on contribue pas, ben qu'on travaille pas, ça fait en sorte qu'on a moins aussi contribué au régime de retraite. Donc, les femmes vont se retrouver pénalisées, même jusqu'à leur retraite, ouais. là, d'avoir des retraites moins... des retraites plus précaires, en fait. Donc, ça amène vraiment à des précarisations financières. Puis aussi, c'est sûr que... c'est ça, quand on parlait des femmes qui aident gratuitement ou de façon sous-rémunérée là, dans l'entreprise du conjoint ou l'entreprise familiale, bien, c'est sûr qu'elles sont pas protégées, là, s'il y a une séparation. Puis aussi, outre les heures de moins qui sont travaillées de façon rémunérée, c'est des heures de moins qu'elles ont pour leur épanouissement personnel aussi, social. Mm-hmm. Aussi, si on pense aux personnes en politique, ça demande beaucoup d'implication, d'engagement, de temps, d'énergie. Donc, c'est vraiment... ça vient toucher pas mal à toutes les sphères de la vie. Oui. Donc, c'est ça contribue vraiment à renforcer des inégalités un peu dans toute l'histoire de la société. Là.
Oui, bien, c'est vraiment intéressant parce que j'aurais pas pensé que ça avait autant d'impact sur la rémunération, la précarité financière. Fait que je trouve que c'est vraiment important, justement, qu'on en parle plus des impacts aussi parce que, mm-hmm. justement, on le prend pour acquis puis on pense pas que ça a des répercussions par la suite. Là, donc,
Exact. Puis probablement qu'il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment puis qui viennent de réaliser qu'elles font pas mal de travail invisible. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour, dans le fond, rendre plus visible leur travail? On a parlé de discuter avec son conjoint ou sa conjointe, mais est-ce que tu as d'autres conseils à ce niveau-là?
Ben peut-être la façon la plus évidente serait d'avoir un petit cahier pendant quelques jours puis de tout noter ce qu'on fait. T'sais, peut-être pendant une semaine, là. T'sais, de tout noter ce qu'on fait, puis je sais que ça va être pénible, là. C'est pas un exercice.
Ça va t'exister.
C'est ça. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, puis peut-être même de noter le temps que ça nous prend à le faire, tu sais. Puis après, on arrive à la fin de la semaine avec un portrait assez représentatif de, bon, regarde tout ce que j'ai fait, mm-hmm. puis par exemple, tu sais, tu fais les comptes de l'entreprise, ou tu t'occupes du budget familial, mm-hmm. ou tu t'occupes, tu sais, toutes des choses que... Puis, c'est ça, c'est beaucoup des tâches que c'est comme un 2 minutes ici, un 2 minutes ouais. là. Fait que c'est sûr que, bon, ça va être pénible de le noter à chaque fois, mais je pense que c'est une bonne façon de
prendre conscience.
Exactement, puis de représenter l'ampleur de ce travail-là. Puis, à une échelle plus macro, c'est sûr que nous, on demande au gouvernement de recenser un peu ce travail-là, puis de sortir des données fiable mm-hmm. puis à jour sur l'ampleur de ce travail-là qui est fait. Parce que c'est ça, les données que je vous ai données dataient de 2015. Là. Mm-hmm. Donc,
il y a des choses qui ont changé
exactement.
Depuis. Là.
Ben, on espère.
Oui, on espère. Ah, ben super. Hey, Kat, je pense qu'on est rendu au segment Parole d'agricultrice.
Parole d'agricultrice, c'est quoi ce segment-là?
Durant ce segment, nous allons lire des questions ou des témoignages reçus de nos agricultrices membres et nous invitons nos expertes à y répondre.
Ah, c'est donc bien cool! On va faire ça à chaque épisode.
Oui.
La première question qu'on a reçue d'une de nos agricultrices, c'est quoi faire pour être reconnue par notre conjoint ou notre belle-famille? La belle-famille, en fait, c'est que dans le milieu agricole, souvent, les femmes vont travailler pour l'entreprise familiale de leur conjoint, donc elles ne sont pas nécessairement reconnues par leur belle-famille. Donc, elles demandent comment qu'elles peuvent être reconnues par celle-ci ou leur conjoint.
Bonne question, mais je pense que ce dont on vient de parler, là, de peut-être prendre en note les différentes tâches qu'on fait, ça pourrait être une première piste. Après, je vous avoue, je je suis tellement pas... Je connais pas assez le milieu. Je me dis qu'il doit y avoir des enjeux de comme, tu sais, la belle-fille qui arrive avec sa liste de toutes les affaires qu'elle a faites. Peut-être que ça va pas super bien passer.
Ça va peut-être mettre un petit froid supplémentaire dans la famille. C'est ça.
Mais je pense que, tu sais, le conjoint, au final, c'est un couple, c'est un partenariat. Donc, je pense que d'en parler à son conjoint, puis je pense que le conjoint aussi a son rôle à jouer par rapport à sa famille. Je sais que moi, s'il y a quelque chose avec la famille de mon chum, j'implique mon chum. c'est aussi ça, là. Puis aussi, on a des super outils de sensibilisation qu'on a fait justement en partenariat avec les agricultrices du Québec sur justement le travail invisible en milieu agricole. Donc, que je vous inviterai à aller consulter sur le site travailinvisible.ca.
Super. On va tout mettre les liens.
Oui, c'est ça, super. Puis c'est ça, donc je pense qu'il y a... Puis d'en parler entre agricultrices aussi, je pense que en discutant, on se rend souvent compte qu'on n'est pas seul là-dedans. Puis peut-être qu'en parlant entre femmes, on peut se donner des trucs aussi. Puis encore une fois, sur un plan plus... sociétal, là. C'est sûr que nous, on amène vraiment des revendications auprès des gouvernements. Autant la FEAS que le CIAFTI, là, on a vraiment identifié des mesures qu'il faudrait mettre en place au niveau du gouvernement pour mieux aider et protéger les personnes qui effectuent du travail invisible, donc autant les femmes que les hommes. Donc, vous pouvez aussi aller signer le manifeste donc sur le site travailinvisible.ca pour appuyer les revendications. Puis faire en sorte qu'il y ait des mesures là, au niveau gouvernemental qui soient mises en place pour faire avancer ce dossier-là. Donc, je pense que c'est vraiment
C'est un mouvement, là, aussi.
Oui, ouais. La valorisation du travail invisible doit se faire avancer autant au niveau des familles que du gouvernement, que des employeurs. Fait que c'est vraiment... Ça doit se faire sur tous les plans, là, en même temps.
Parfait, merci. Et puis la deuxième question, c'est comment éviter la culpabilité avec les enfants et le travail à la maison? Donc, justement, la culpabilité de mettre ses limites pour, tu sais, des fois, de mettre justement là, ses limites, de dire, ça, je vais avoir du temps pour ça, puis...
Encore une fois, je parle comme ça, mais moi, j'ai pas d'enfants. Donc, tu sais, c'est sûr que chacun a ses trucs qui fonctionnent pour eux et elles. Mais, tu sais, je pense que c'est de prendre conscience aussi que on peut pas être parfaite, on peut pas tout faire, puis d'arrêter de se comparer aussi à des modèles irréalistes ou inatteignables. Tu sais, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans les médias, c'est pas nécessairement réaliste. Donc, je pense que c'est ça, d'en parler autour de nous aussi pour voir que comme, hey, c'est correct que ton plancher soit pas lavé à toutes les semaines. Ou c'est correct que, tu sais...
Ton enfant mange pas des fruits et légumes bio.
C'est ça. Puis, tu sais, que des fois, tu commandes une pizza parce que t'as juste pas envie de faire à souper. Ça arrive, c'est correct. Donc, c'est de se laisser le droit d'être humaine puis de pas être parfaite puis de pas tout faire tout le temps. Puis, tu sais, les enfants, ils ont besoin d'être aimés, puis ils ont besoin d'être appuyés, puis, tu sais, c'est pas... tu sais, le fait de pas manger bio à tous les jours ou le fait d'avoir un plancher qui est pas... tu sais, super propre à, tu sais, tous les jours de la semaine, c'est pas ça qui va le nuire dans son épanouissement.
On oublie souvent qu'au final, les enfants, ils veulent juste être aimés et se sentir en sécurité.
Super! Merci beaucoup, Marianne. C'est ce qui conclut nos questions et la section Parole d'agricultrice qui va avoir lieu à chaque épisode. Donc, merci beaucoup, Marianne, d'avoir été présente.
Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée.
C'était vraiment le fun. Merci.
Nous accueillons maintenant notre deuxième invitée, Marie-Andrée Chabot, du secrétariat à la condition féminine. Bonjour, Marie-Andrée. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, merci pour l'invitation.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler un peu plus de ton rôle au sein du secrétariat à la condition féminine et de l'implication de celle-ci face à la problématique du travail invisible?
Donc, moi, mon titre, c'est conseillère en égalité entre les femmes et les hommes au secrétariat à la condition féminine. Donc, au quotidien, 5 jours par semaine, je travaille à mettre en œuvre la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a 6 orientations dans la stratégie. Puis il y en a une qui concerne le partage des responsabilités familiales au sein des couples, au sein des familles. Puis un des angles par lesquels on travaille sur le partage équitable des responsabilités, c'est via le travail invisible. Donc, on mène des actions au secrétariat pour faire connaître le travail invisible, pour sensibiliser la population au travail invisible et aux impacts que ça a dans la vie des gens. On finance aussi des organismes communautaires, des organisations de recherche pour mettre en œuvre des projets en matière de travail invisible. Donc, c'est les deux angles. Soit on finance, soit on fait nous-mêmes.
Justement, là, récemment, je crois que vous avez financé une recherche avec le GRETA, le département...
Oui, on a financé une recherche sur le travail invisible des agricultrices, en fait, pour voir un petit peu les différences entre le travail des hommes et des femmes. Mm-hmm. Donc, c'est le groupe de recherche sur le travail agricole, le GRETA, oui. Comme tu le nommais, qui relève de l'UQAM. Trois chercheuses ont travaillé là-dessus, Elisabeth Abergel, Julie Francaire, Elsa Galera. Donc, le titre du rapport, ça s'appelle « Le travail agricole et ses divisions entre hommes et femmes au Québec, rapport de recherche ». Il y a eu une revue de littérature qui a d'abord été faite par les chercheuses. Ensuite, il y a eu un grand sondage en ligne auprès des personnes qui travaillent dans le milieu agricole. Puis, il y a eu des entrevues terrain avec des travailleuses de rang pour vraiment créer un grand portrait de l'état de situation
actuel. Pour avoir plus de
actuelle.
Données aussi, parce que justement, là, avant de développer des outils, des choses comme ça, il faut un peu voir l'état du terrain. Là.
Oui. Donc ça, c'était une première. Le Conseil du statut de la femme avait déjà fait un avis et une recherche sur le travail agricole, mais nous, on allait vraiment plus en profondeur dans la collecte de données, là, vraiment, avec le sondage direct auprès de la clientèle là, du milieu agricole.
Puis pourquoi c'est important pour le secrétariat à la condition féminine de financer ce genre d'initiative?
En fait, bien, premièrement, au secrétariat à la condition féminine, on tient un sondage périodiquement sur les perceptions des Québécois, des Québécoises en matière d'égalité, en général. Puis il y a un mythe, le mythe de l'égalité atteinte, où plusieurs personnes y adhèrent. Donc, quand on croit que l'égalité est atteinte, c'est sûr qu'on ne met pas en œuvre des actions pour corriger les choses. Il y a plus d'hommes que de femmes qui adhèrent
ça,
à
demander,
ce mythe-là.
Est-ce que c'est mix ou c'est plus d'hommes ou plus de femmes?
Oui, plus d'hommes, un petit peu. Ça tourne à l'entour de 50 % qui croient au mythe de l'égalité atteinte, mais il y a plus...
Ouais, c'est ça, c'est la moitié.
C'est énorme.
Oui, vraiment.
C'est énorme. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui croient que l'égalité est atteinte, mais encore plus d'hommes. Puis, travailler sur le travail invisible, les inégalités, on les voit dans plusieurs sphères. Hein. On les voit, souvent les gens en sont conscients dans le domaine de la violence. Mm-hmm. Puis on l'a vu avec la pandémie, il y a eu plusieurs femmes assassinées par un conjoint ou un ex-conjoint, ce qui est pratiquement pas le cas là, d'aucun homme. Ça arrive, mais c'est très, très rare. Donc, dans la violence, on voit l'inégalité. Puis, cette violence-là, c'est un symptôme d'autres inégalités. On le voit encore dans le milieu du travail. Les femmes gagnent en moyenne 7 800 $ de moins par année que les hommes après impôts.
Oh, mon Dieu.
C'est énorme.
Vraiment?
Et pourquoi cette inégalité économique-là? Il y en a beaucoup de ça qui découlent des inégalités plus au niveau personnel, au sein des familles, au sein des couples, puis des stéréotypes sexuels et sexistes. Donc, en matière de travail invisible, dans le travail invisible, il y a toutes les tâches domestiques, soutien à la famille, proche aidance, donc tout le travail qu'on fait qui est non rémunéré, dans le fond.
Mm-hmm.
Puis moi, je le dis souvent à mon fils, là, je dis là, j'ai du travail à faire. Mais c'est quoi mon travail? Tu sais, je peux pas être avec toi, j'ai du travail à faire, faut que je fasse la vaisselle, faut que je fasse le lavage.
C'est bien de le mentionner comme ça parce que je pense que dans notre vie quotidienne, on mentionne pas que c'est un travail. Oh, je vais faire des tâches ménagères ou des trucs comme
oui,
ça, mais ça, on prend pour acquis.
C'est
ça. J'ai ça à faire.
C'est ça. Ben, pour moi, c'est important. C'est pas mon hobby, là. Je veux pas que mon fils, non, à ma fête, il me dise « Hey, garde-toi, passe le balai. »
Je t'ai laissé de la vaisselle dans les pieds. Bonne fête, maman.
C'est pas un choix, c'est un travail. Ouais. J'ai mon travail de bureau, puis j'ai mon travail domestique. Tout le monde en a, mais c'est un travail. Puis c'est ce travail-là qui est... C'est correct. Le système économique est ainsi conçu qu'il y a des tâches rémunérées et non rémunérées. Ça peut être questionné, mais ça peut être ça, le système aussi. Mais là, le débalancement dans le système, c'est que les femmes font plus de travail non rémunéré, puis les hommes font plus de travail rémunéré. Et tout ça se balance. Les femmes font une heure de plus par jour en moyenne de travail non rémunéré que les hommes. Les hommes travaillent une heure de plus par jour en travail rémunéré. Fait que tout le monde travaille autant. Le débalancement, il vient vraiment avec le système économique qui a des... Donc, il y a des impacts pour les femmes tout au long de leur vie. Quand on décide de travailler moins d'heures, de travailler à temps partiel, ou de choisir, il y a aussi l'équité salariale. Plusieurs emplois majoritairement féminins sont moins bien rémunérés que des emplois majoritairement masculins. Pour des niveaux d'études équivalents, pour des niveaux de responsabilité équivalents. Fait que c'est pour ça qu'on s'intéresse là, au secrétariat à la condition féminine, à ces sujets-là. Ça peut sembler banal, ça peut sembler parfois anodin de dire, ben là, on s'occupera pas de qui prépare le lunch chez vous. C'est pas important. Mais dans le fond, oui, ça a un impact sur les revenus tout au long de la vie, sur les revenus à la retraite, sur la progression de carrière. Donc, ça a des impacts quand même importants.
Wow. Est-ce que c'est la première fois que le secrétariat à la condition féminine s'implique dans un projet en lien avec l'agriculture féminine, si je reviens à l'étude là, que vous avez financée?
Pour une étude comme ça, c'est une première au secrétariat à la condition féminine. On avait déjà financé des projets ponctuels auprès d'organisations communautaires, pour la plupart dans le domaine agricole, pour répondre aux besoins des femmes ou pour accompagner les femmes dans leur développement entrepreneurial ou dans leur démarche pour être représentés là, dans des instances syndicales. Puis dans le portefeuille Conditions féminines au gouvernement du Québec, il n'y a pas que mon organisation, le secrétariat à la condition féminine, qui y travaille, qui utilise les budgets. Il y a aussi le Conseil du statut de la femme qui s'est intéressé, ce conseil-là aussi, là, à la place des femmes en agriculture.
Super. Puis, j'étais intéressée à savoir qu'est-ce qui fait en sorte, là, on parle beaucoup du travail invisible, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut être particulier au domaine agricole, ce genre de problématiques-là?
Bien, le rapport de recherche s'y est intéressé, parce que c'est justement une des choses qu'on voulait savoir. Du travail invisible, il y en a dans toutes les sphères de la société. Puis, il y en a beaucoup plus dans le domaine entrepreneurial en général. Dans les familles d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, les sphères de vie sont souvent moins perméables que quelqu'un qui a un travail de salarié. Donc, le rapport qu'on a commandé, justement, il nommait différents aspects. Premier aspect, c'est l'unité domestique comme espace de travail. Donc, c'est ça qu'on disait, le fait d'être chez soi et dans son entreprise, ça fait que la séparation du travail est plus flou. Les hommes, souvent, vont avoir un travail quand même à l'extérieur. Donc, aller soit prendre soin des animaux, soit semer, c'est à l'extérieur, c'est dans le champ, à l'extérieur de la maison. Tandis que souvent, le travail de la femme va plus être à l'intérieur de la maison, pas exclusivement, puis pas dans tous les modèles d'entreprise, mais le fait de gérer les commandes, gérer plus la comptabilité, la tenue de livre, les relations aussi avec soit des employés, des partenaires, tout ça peut se gérer de la maison, ce qui fait que ben, tout ce que la femme fait est considéré domestique et non du travail agricole. Donc ça, c'est un des éléments particuliers.
Même quand elle fait la comptabilité pour l'entreprise, c'est considéré comme domestique et non agricole?
Ça a tendance à être considéré...
Le bureau est en maison, soit.
C'est ça. C'est de dire que, ben, dans le fond, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à heure par heure, qu'est-ce que la femme est en train de faire dans la maison. Peut-être qu'elle prépare un repas, peut-être qu'elle fait la comptabilité, peut-être qu'elle fait tout ça en même temps.
Probablement.
Donc, c'est ça, c'est pas qu'on sait pas qu'elle fait la comptabilité, c'est un peu plus la reconnaissance du temps que ça prend, de la valeur que ça a, vu que c'est mélangé.
C'est moins valorisé.
Plus difficile à valoriser, parce que c'est morcelé aussi. Puis ça, c'est un autre aspect du travail, le fait que ce soit morcelé un petit peu. La tâche principale pourrait être la tâche à l'extérieur, dans l'étable, dans le champ. Ça, on le sait. C'est ça, c'est une tâche agricole. C'est connu et reconnu. Tandis que les tâches plus dans la maison, administrative, même, on pourrait parler même de travail émotionnel, de tenir l'ambiance avec peut-être des employés, d'autres membres de la famille qui travaillent peut-être ou non dans l'entreprise agricole, des fournisseurs. Le maintien du lien, c'est un travail aussi. Donc, mais c'est morcelé. Le fait de dire « Ah, je vais aller chercher une pièce à la quincaillerie parce que le tracteur a brisé » ou c'est en soutien souvent au travail principal qu'un homme pourrait effectuer. Donc, c'est une charge mentale assez intense de devoir combiner toutes ces tâches-là en soutien à la tâche principale.
Je lisais justement dans l'étude que souvent, justement, pour ces tâches-là, la femme va être interrompue dans la tâche qu'elle était en train de faire, comme si elle était un peu, là, je ne sais pas si j'utilise le mauvais mot, là, mais au service un peu de l'homme. Comme si la tâche qu'elle faisait était moins importante que justement, là, il faut aller chercher la pièce à la quincaillerie parce que le tracteur a brisé, bien, ça devient comme ça, c'est prioritaire. Mais elle était peut-être en train de faire la comptabilité puis elle était vraiment dans les chiffres. Mais c'est un peu ça aussi que l'étude a démontré.
Qu'il y aurait une hiérarchie, justement, dans l'importance des tâches. Puis même dans la hiérarchie, il y avait un exemple dans l'étude sur la fabrication du pain.
Bien, c'est ce que j'allais dire. Ouais, J'ai aimé celle-là. Si tu peux la dire, là, celle-là, moi, elle est venue me chercher.
Bien, c'est ça. C'est de dire que, bon, semer le grain, le récolter, le moudre, ça, c'est considéré ce qu'ils appellent productif. Donc, c'est rémunéré, on le paie, c'est clair. Il faut faire ça. Mais cuisiner la farine, ça, c'est non rémunéré. Ça se fait dans la maison. Mais c'est tout aussi essentiel parce qu'une étape ne va pas sans l'autre. Dans le fond, si on s'arrête à la farine...
Ça ne sert pas à grand-chose, la farine, si on ne la cuisine pas.
C'est ça. Mais dans le cycle de production, il y a des sections qui sont productives et rémunérées, qui sont souvent... le travail des hommes, puis il y a des sections du travail qui sont dites non productives, non rémunérées, mais c'est tout à fait arbitraire, cette séparation-là.
Ça veut dire productif et non productif.
C'est ça.
C'est autant productif, mais c'est qui a mis ces barèmes-là? C'est spécial un peu.
C'est ça. Puis même chose pour la production plus avec les animaux. Donc, même chose, on peut parler de l'élevage, du porc. Cuisson du porc, c'est la même chose. Là, on parlait du grain, on peut parler en production animale aussi, c'est la même chose. Donc, ça, c'est... On voit que c'est historique, que ça s'est installé comme ça, mais qu'il n'y a pas nécessairement une logique derrière ça.
Ça m'amène à te demander, est-ce qu'on sait s'il y a une production, justement, où le travail invisible est plus présent qu'une autre, ou est-ce qu'il est juste présent au même titre dans chacune des productions?
C'est présent, bien, le travail invisible est présent dans toutes les productions comme dans toute la société. Mais on voyait quand même que dans les grandes cultures, les femmes consacrent en moyenne moins d'heures aux tâches agricoles que dans les autres secteurs. Mais pour ce qui est... dans tous les secteurs, en général, les hommes et les femmes travaillent à peu près le même nombre d'heures. Les femmes, souvent un peu plus d'heures que les hommes. Okay. Quand on additionne travail agricole et travail domestique. Donc, il y a vraiment aussi une fausse idée que les femmes travaillent moins. Les femmes travaillent souvent plus ou égal, mais c'est vraiment, encore là, la mesure de valorisation, la mesure de rémunération.
Un travail qui n'est pas considéré comme productif ou important.
C'est ça. Puis ça a toujours été comme ça. Les femmes ont toujours travaillé. C'est vraiment avec le travail salarié que les différences sont apparues. Je pense de manière... Ben, en fait, comment ça s'est installé, c'est beaucoup avec l'industrialisation. Les hommes ont arrêté de travailler chez eux pour aller travailler dans les usines. Puis il y avait à ce moment-là un salaire familial. Ça crée encore... C'était pas parfait, là. Ça créait des débalancements dans la relation de pouvoir au sein du couple et tout ça. Mais c'est ça qui persiste encore. Ça s'est réglé beaucoup au Québec avec la loi sur l'équité salariale. Ça s'est beaucoup amélioré. Mais il reste encore un débalancement dans ce qui est rémunéré ou pas et à quel niveau c'est rémunéré.
Puis ça, selon une étude qui date de 2009, seulement 20 % des agricultrices touchaient un salaire. Est-ce qu'on a une idée maintenant de ce pourcentage-là d'agricultrices et de conjointes d'agriculteurs qui touchent actuellement un salaire, tu sais, comme là?
Oui, ça s'est quand même amélioré. Ça semble s'être amélioré. Dans le rapport qu'on a commandé, il y avait certaines questions sur la rémunération. Donc, il y avait 39 % des femmes qui disaient toucher un salaire. Donc, c'est un petit peu plus que... Mmh. Ben, pas mal plus oui, que oui, le 20 % qui avait été déclaré en 2009. C'est les hommes, eux, c'était 43 % qui touchaient un salaire. Mmh, okay. Donc, il y a quand même une... Faut le nommer parce que c'est pas 39 par rapport à 100, mais c'est 39 par rapport à 43. Mais cet écart-là, quand même, de 4 points de pourcentage est significatif. Puis, en agriculture aussi, étant donné que c'est un modèle entrepreneurial souvent, il n'y a pas juste le salaire, il y a les parts aussi. Donc, puis souvent, on peut avoir tendance à ne pas se verser trop de salaire au début, mm-hmm. laisser l'argent dans l'entreprise. Donc ça, il y a différents modèles. Mais pour le salaire, quand même, ça s'est amélioré. Ça a presque doublé, là, de 20 à 39 % pour les femmes, même si ça demeure moins que les hommes. Puis pour la rémunération globale là, qui inclut les parts, on était à 59 % des femmes qui reçoivent une rémunération, puis 62 % des hommes.
Ah, OK.
Donc, on voit encore le débalancement.
Mais ça se rapproche.
Mais ça se rapproche. C'est non, ça.
On a bon espoir c'est pour ça. La suite.
Puis pour revenir au travail invisible, est-ce qu'il y a un outil ou quelque chose qui existe? Si, mettons, moi, là, j'ai envie de savoir... Combien d'heures par semaine je fais en travail invisible ou est-ce que j'en fais du travail invisible? Y a-t-il un outil ou y a-t-il quelque chose qui existe pour m'aider à ce niveau-là?
Il y a des choses qui existent, puis il y a quelque chose qui s'en vient aussi là, du secrétariat à la condition féminine. Donc, c'est sûr que tout part d'une réflexion personnelle, hein, de savoir qu'est-ce que je compte dans le travail invisible. Est-ce que je compte l'aide aux devoirs? Est-ce que je compte mon bénévolat au patinage artistique? Est-ce que je compte... qu'est-ce qu'on compte là-dedans? Là? Mes heures de transport, quand je vais porter un enfant à une activité ou quand...
Mais donc, c'est ça qui floue un peu, c'est ce qui rend invisible. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est un travail, qu'est-ce qui ne l'est pas.
C'est ça.
Ce qui rend un peu touché l'affaire, là.
Donc, il y a l'organisme, le Réseau pour un Québec Famille, qui se spécialise, eux, plus en matière de conciliation entre les sphères de vie personnelle et professionnelle, qui font un sondage à chaque année qui est disponible sur leur site Internet. Donc, ça, on peut aller voir les questions, puis voir, ça nous aide à se positionner un petit peu si on veut faire la réflexion pour soi-même, combien d'heures. Puis ça peut être intéressant. Toujours faire une réflexion personnelle en premier. Donc, de lister un peu, bon, ben qu'est-ce que je fais? Puis après ça, ben peut-être, une fois qu'on a le portrait pour soi-même, peut-être en discuter si on est en couple avec notre partenaire pour voir est-ce qu'on fait vraiment les choses selon nos forces puis nos intérêts?
Puis est-ce que c'est égalitaire
est-ce
aussi?
Est-ce que c'est, oui, égalitaire? Puis pour le milieu agricole particulièrement, avec le rapport de recherche qu'on a commandé au GRETA, il y a aussi un outil
sur la valeur, un outil de calcul de la valeur du travail invisible qui nous a été proposé. Là, il est en développement pour que ce soit vraiment facile et agréable d'utilisation. Donc, les personnes qui vont vouloir le compléter, bien, ça va être une bonne base d'introspection et de discussion. C'est un questionnaire facile à suivre sur qu'est-ce qu'on rentre. Puis, c'est vraiment adapté pour le milieu agricole selon ton type, dans quel type de culture tu travailles et tout. Puis, à la fin, ça donne une valeur. Puis là, on a vraiment fait, les chercheuses ont fait l'inventaire de toutes les méthodes de calcul qui existent. Parce que quelle valeur ça a, mon travail? Quand je fais un repas, par exemple, est-ce que ça vaut ce que ça coûterait si je le cuisinais pas puis qu'on allait au restaurant? Est-ce que ça vaut le travail, admettons que moi, si je faisais pas ces heures-là à la maison, si je suis conseillère en égalité au secrétariat à la condition féminine, est-ce que ça vaut mon salaire horaire de mon travail en dehors de la maison? Est-ce que ça vaut le salaire moyen québécois? Qu'est-ce que ça vaut?
Oui, c'est ça, c'est beaucoup de questions aussi de savoir comme démêler tout ça, c'est vrai, là.
C'est ça. Donc là, il y a différentes méthodes de calcul qui ont été analysées, qui sont toutes valables. Hein. On peut faire sa propre méthode de calcul maison aussi. Mais dans l'outil qui va paraître, c'est le salaire moyen dans le domaine agricole qui est utilisé.
OK, super.
Donc pour faire la valeur de son
travail.
C'est
fun comme ça, justement, ça divise pas les tâches, justement. C'est comme si ça serait une tâche agricole.
C'est ça.
C'est ce qui conclut notre premier épisode. Merci beaucoup à nos invités Marianne et Marie-André d'avoir été présentes aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris autant que nous sur le travail invisible. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez vous diriger sur le site de l'AFEAS et sur le site québec.ca pour prochainement pouvoir lire le document de recherche sur le travail invisible.
Nous, on se retrouve le 2 mai prochain pour notre deuxième épisode qui abordera les enjeux de la mixité dans les instances politiques.
Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux!